Et on retrouve tout de suite trois chercheuses du CRPG, Camille Cartier, Jessica Flao et Evelyne Fury, qui sont venues nous parler de la conférence de ce soir qui aura lieu à 20h à l'IUT Nancy Brabois à Lunéville, voyage vers d'autres mondes terrestres, les planètes rocheuses.
Bonsoir, bonsoir mesdames. Première question, qu'est-ce qui va être présenté à la conférence ?
Eh bien, pendant cette conférence, on va parler pendant une heure des grands mécanismes qui permettent de fabriquer les planètes rocheuses, mais aussi d'autres types de planètes. On va aussi faire le point sur quelles sont les grandes avancées scientifiques de ces dernières années dans le domaine de la planétologie, et notamment ce que nous a apporté l'exploration spatiale. Et puis on va voir aussi à quel point notre système solaire et la Terre sont des planètes uniques. Et voilà.
Vous êtes chacune chercheuse au CRPG, le Centre de Recherche Pétrographique et Géochimique. Sur quoi portent vos recherches à chacune d'entre vous ?
Alors je commence, mon nom est Jessica Flao. Moi je suis géologue de formation spécialisée en planétologie. Et je travaille sur l'étude des données qui sont renvoyées par les missions spatiales, aussi bien les satellites qui sont en orbite autour des planètes que les robots qui s'y posent quand on a de la chance. Et ma spécialité, c'est plutôt la géologie martienne et lunaire.
Merci. Camille ?
Alors, moi, c'est Camille Cartier. Je suis aussi géologue planétologue. Moi, je suis plutôt expérimentaliste. Ça veut dire que je fais des expériences. Donc, j'aime bien brûler, casser des choses, tout ça. Plus c'est dangereux, voilà. Donc, ce sur quoi je travaille, c'est plutôt la formation du noyau des planètes telluriques, hein, puisque les planètes telluriques, elles sont formées principalement d'un noyau métallique et d'une partie externe faite de roches.
On rappelle que les planètes telluriques sont les planètes rocheuses comme la Terre et Mars.
Voilà, c'est ça. Comme, il y en a quatre dans le système solaire, donc, dans l'ordre en partant du Soleil, Mercure, ma préférée parce qu'elle a le plus gros noyau. C'est la plus extrême. Ensuite, Vénus. Ensuite, la Terre, avec son satellite, la Lune. Et puis, Mars.
Alors, voilà. Si Mercure est votre préféré, pourquoi travaillez-vous sur Mars ?
Moi, je ne travaille pas sur Mars.
Ah, vous travaillez du coup sur les données. C'est du coup Jessica qui travaille sur Mars. On va finir du coup la présentation avec Evelyne Fury. Vous pouvez nous présenter votre domaine de recherche ?
Tout à fait. Donc, je m'appelle Evelyne Fury, donc aussi chercheuse au CRPG à Nancy. Moi, je suis plutôt, on va dire, géochimiste ou cosmochimiste. Donc, je m'intéresse à la composition chimique des roches. Et donc, je vais surtout m'intéresser à ce qu'on appelle les éléments volatiles, donc l'eau, l'hydrogène, le carbone, l'azote. Et donc, je m'intéresse, par exemple, à mieux comprendre d'où viennent justement ces éléments volatiles sur Terre. Et donc, je vais essayer à chercher d'autres sources de ces volatiles, et je vais justement regarder par exemple les météorites, et je vais aussi étudier la Lune beaucoup, donc je travaille sur les échantillons lunaires, et j'essaie de voir justement est-ce que la Lune, les échantillons lunaires contiennent de l'eau, des éléments volatiles.
Donc maintenant que vous nous avez expliqué vos champs de recherche, comment expliquer tout ça, comment intéresser les étudiants à vos recherches ?
Alors je pense que l'avantage de nos sujets de recherche, c'est que normalement c'est relativement passionnant. Donc on arrive à relativement bien vendre au grand public ce qu'on est en train de faire, parce que justement on étudie des roches exotiques, des roches extraterrestres. On va participer plus ou moins à des missions spatiales, donc, étudier des échantillons ramenés par les missions spatiales, ou comme dans le cas de Jessica, étudier des images qui sont prises par des sondes. Et puis...
Et pour le coup, on va parler un petit peu de Mars. Par exemple, il y a deux jours, on a entendu les premiers vents sur Mars. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Alors, ce n'est pas une surprise. On sait depuis longtemps que Mars a une atmosphère. On voit depuis quelques années maintenant, avec les caméras à très haute résolution qu'on a, des dunes de sable qui bougent sur Mars. Donc, c'est que le vent est assez fort pour déplacer des grains de sable. C'était assez inattendu jusque-là. Donc on s'attendait à avoir du vent. Honnêtement, on a emmené le micro sur cette mission parce que c'était une façon d'impliquer un petit peu plus le public en enregistrant des sons sur Mars.
Mais c'est surtout pour rendre accessible au public, pour dire on a entendu du vent sur Mars.
Voilà, c'est pas l'instrument scientifique le plus important de la mission, c'est sûr.
Mais ce qui permet de vulgariser la science.
Voilà, c'était une façon de pouvoir dire, écoutez, on a envoyé une mission, un micro c'est pas très très lourd, on le rajoute et puis on vous fait écouter en direct le vent sur Mars.
Quel a été pour vous trois le résultat le plus étonnant, surprenant de vos recherches ?
Par exemple, je ne sais pas, comme on a sur Mars, dernièrement, la mission InSight a été envoyée, par exemple, le 26 novembre. InSight a atterri sur Mars le 26 novembre.
Alors, c'est dur de choisir parce que c'est vrai que rien que sur les 6 derniers mois, on a une actualité spatiale qui est énorme. Il y a eu, par exemple, les photos de Ultima Thule, qui était l'objet le plus lointain qu'on a jamais imagé dans le système solaire.
On rappelle ce qu'est Ultima Thule ?
Alors, c'est un astéroïde glacé qui est vers la ceinture de Kuiper, donc qui est plus loin que toutes les planètes qu'on connaît.
Derrière Pluton, qui n'est plus une planète ?
Juste derrière Pluton, voilà. C'est la sonde New Horizons qui était partie voir Pluton, maintenant s'éloigne encore un petit peu plus du Soleil et qui l'a imagé. On a des missions qui sont autour d'astéroïdes en ce moment qui vont ramener des échantillons. On a eu InSight sur Mars. C'était super excitant de voir le sismomètre français se poser sur Mars.
Cocorico, c'est français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur le fait que la France participe à cette mission de la NASA d'InSight?
On est super fiers parce qu'on n'a pas forcément le budget pour envoyer notre mission à nous tout seuls. La France, on n'enverra jamais tout seul une mission sur Mars. On participe à travers l'Agence spatiale européenne. Pour l'instant, on a 2 satellites autour de Mars, mais on ne s'est jamais posé, nous les Européens. Donc forcément, une opportunité d'envoyer un de nos instruments sur les missions américaines, c'est génial, puisque c'est peut-être qu'on profite du voyage, mais c'est nous en tout cas qui gérons l'instrument, qui récupérons les données. Donc c'est un tout petit bout d'une mission française, on peut dire.
Mais pour le coup, sur Mars, il y a InSight, mais derrière moi, il y a aussi Curiosity. Curiosity qui est un rover qui parcourt Mars. Un selfie a été fait, c'est toujours pour intéresser le public, pour rendre accessible, ou c'est juste de la promotion, de la com?
Alors pas seulement, justement moi j'ai travaillé sur Curiosity qui a 2 instruments français ce coup-ci, et j'ai eu la chance d'être aux commandes de celui qui est sur la tête. C'est un laser qui tire des petits trous sur Mars et on vaporise la roche et on analyse la composition du plasma pour savoir la composition de la roche qu'on a détruite. Donc c'est très marrant à faire, on a un joystick, on s'amuse à tirer sur Mars. Si on prend des selfies, c'est aussi pour contrôler sur le dos du robot la quantité, par exemple, de poussière martienne et les cibles de calibration. On a sur le robot des cibles qui nous permettent de calibrer nos instruments. On peut regarder leur état avec les photos qu'on prend du dos du robot. On peut vérifier un peu le statut des instruments. On vérifie l'état des roues. Curiosity a connu beaucoup de problèmes avec ses roues qui ont été très endommagées. Donc c'est aussi pour faire des contrôles sur tout ce qui est sur le robot, tout simplement.
Curiosity va devoir justement atteindre le sommet Gale, c'est bien ça, 5000 mètres de haut. Pourquoi?
Alors c'est Gale, c'est le nom Gale. Du cratère où il est, mais dans le cratère il y a le mont Sharp, et on va essayer de remonter dans ce mont qui est une pile de sédiments qui ont des compositions qui varient de la base au sommet pour étudier un petit peu tout cet empilement de sédiments, dans quelles conditions ils se sont formés.
Comment on peut vulgariser ces recherches pour les rendre accessibles à un large public comme vous aurez ce soir lors de la conférence?
Ben, je ne sais pas trop comment on peut faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure. On met un petit peu de volonté à définir rapidement des mots avec des images qui parlent à tout le monde. Et puis, en parlant d'un sujet passionnant...
Oui. Étant passionné vous-même, vous arriverez
facile. Je
à
pense que c'est assez facile à communiquer avec un petit peu de travail derrière, évidemment.
Comment vous est venue cette passion pour l'astronomie?
Alors, nous, on est plus géologues à la base. Je vais parler en votre nom, je ne sais pas trop, mais comme tous les géologues, je pense qu'on a débuté à 4-5 ans avec notre première collection de minéraux fossiles. Puis ensuite, on se dit que les cailloux, c'est cool, mais... La guerre des étoiles, tout ça, c'est quand même cool aussi. Et donc ensuite, on arrive à la fac. Et puis là, on se rend bien compte que géologue, c'est quand même le métier le plus sympa et le plus pas sympa à la fois. Mais en gros, c'est plein de métiers dans un métier. Et donc après, on se spécialise de plus en plus vers l'espace. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, on n'a pas fait beaucoup d'astrophysique dans notre cursus. On est vraiment géologue. Géologue extraterrestre, quoi.
Et sur la conférence de ce soir, vous allez pouvoir vous appuyer sur un support, vous allez pouvoir montrer des choses au public, ou simplement vos voix, vos 3 voix?
Non, on s'appuie sur une présentation PowerPoint.
Un PowerPoint pour imager.
Oui, ouais. Oui, je pense que en tant que scientifique, on a l'habitude de faire des conférences et donc c'est le format auquel on est habitué. J'avoue qu'on n'est pas encore trop en one woman show, mais
On a besoin ça de peut, notre, de notre support pour se rassurer et surtout, surtout quand on est dans un domaine comme le nôtre, on est juste obligé de montrer des photos de planètes, de loin, de près, voilà. Il y a beaucoup de choses à montrer qu'il faut voir et juste des mots, ça suffirait pas.
Vous attendez à quelle sorte de public ce soir ?
Eh ben, je pense que ce sera la grande surprise pour nous, mais tout le monde est la bienvenue et on espère que y aura justement plein de gens qui vont nous poser plein de questions aussi.
Merci mesdames d'être venues dans notre studio pour nous parler de la conférence qui aura lieu ce soir à 20h.